ou www.radioaudio.org.
Comme on vient de vous l'annoncer à l'instant, vous êtes bien sur la bonne station, 89.5 FM sur Saint-Étienne et Périphérie. C'est Radio Audio, bien sûr. À la mi-journée, le troisième jeudi de chaque mois, vous avez rendez-vous avec l'information locale sous une forme un peu particulière. Il sera question d'histoire ouvrière aujourd'hui avec notre rendez-vous mensuel accompagné du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois.
Nous voici réunis aujourd'hui dans le cadre des après-midi, des journées du GREMOS, une petite heure que nous allons passer autour de l'évocation de mai 68 et plus précisément autour de la question que nous reste-t-il de mai 68. C'est un foisonnement de lecture des événements de mai-juin 1968 que nous avons en ce moment. Avec un regard sur tous les dérèglements de l'époque et tout ce qui se met en place qui peut être considéré comme fondateur. Alors, nous avons eu la possibilité de revenir sur cette question à travers une brillante analyse qu'a réalisée Michel Zancarini-Fournel dans le cadre de Rhume et Méninges. Son intervention se retrouve sur le site du GREMOS. Elle est intitulée 1973, le 68 stéphanois, symbole des luttes des années 1968. Et puis, chaque jour, nous avons sur Internet l'évocation anniversaire de la date du jour, toujours par remue-ménage à travers... l'évocation de la date à travers des extraits de films, à travers des interviews, des extraits qui durent d'une façon très différente, parfois 10 minutes. En tout cas, le rendez-vous est toujours très attendu. Alors aujourd'hui, eh bien, à nous de nous pencher sur mai 68, et nous avons le plaisir de recevoir Michel Destour, qui est à la fois... une témoin et à la fois une actrice, à sa manière, des événements de mai 68. Alors Michel, bonjour.
Bonjour.
À l'époque, vous aviez 22 ans, en 1968. Vous étiez originaire de Rive-de-Gier, issu du milieu ouvrier, mais déjà dans le monde du travail.
Oui, j'avais un emploi de secrétaire dans un lycée, au lycée professionnel du Chambon-Faugerolles. Et voilà, et je suis ensuite restée dans l'éducation nationale, hein, puisque j'ai évolué, je suis devenue par la suite conseillère d'orientation, puis directrice du CIO de Montbrison. Aujourd'hui, je suis à la retraite.
Alors, on pouvait voir, pour ceux qui font appel à leurs souvenirs, des signes préliminaires de l'ébranlement, des basculements qui pouvaient exister, par exemple, dans le monde étudiant.
Bien sûr. Alors, dans le monde étudiant, il y avait, bien entendu, des contestations, hein, y compris à travers l'organisation du Parti communiste pour les étudiants, qui était l'UEC. Il y avait eu nombre de militants, à la fois, surtout à Paris, mais aussi en province, qui avaient remis en cause un certain nombre de choses qui étaient faites par le Parti communiste. Donc il y avait eu des exclusions, il y avait eu déjà la constitution de groupes qui, tout en restant, en se disant révolutionnaires, remettaient en cause, disons, les grands partis.
Et à Saint-Étienne, une petite université de province qui débute,
oui,
avec des jeunes gens qui arrivent là, qui n'ont pas forcément les codes.
Qui n'ont pas forcément les codes de l'école. hein, de l'école, disons de l'enseignement supérieur. Mmh. Hein. De plus en plus, donc, dans les années qui ont précédé, on a vu une entrée des lycéens, hein, en bien plus grand nombre dans les établissements scolaires. D'ailleurs, des lycées se sont construits. Quand moi-même, j'ai fini ma classe de 3e, il n'y avait pas de lycée de filles à Rive-de-Gier, puisque je suis venue à Saint-Étienne. Les lycées se sont construits dans la période qui va suivre. Je regardais également pour ce qui concerne l'enseignement supérieur. À Saint-Étienne, il y avait une petite université avec quelques années. Il n'y avait pas une filière complète. Mais par exemple, l'ENIS, l'École nationale d'ingénieurs, avait été créée en 61. Et l'IUT, qui va avoir 3 sections en 68, il y a 3 sections de l'IUT en 68, venait simplement d'ouvrir, puisqu'il ouvrait en 67. Et il va être, les élèves de l'ENIS et de l'IUT vont être parmi les premiers à rentrer dans la vague de protestation de 68.
Alors du côté du monde ouvrier, là aussi, les grèves commencent à s'intensifier. On peut peut-être remontrer à 1963 avec la grande grève des mineurs.
Oui.
Mais depuis, on a un monde ouvrier qui est toujours prêt à s'enflammer.
Ben, le monde ouvrier est un peu fébrile, hein, puisque donc, on le voit en particulier dans la métallurgie. On a vu également avec des grandes grèves, hein, qui ont secoué des moments, des bassins comme par exemple à Caen ou à Grenoble, où avec, il y a des mouvements qui sont conséquents avec des populations d'ouvriers jeunes. Et on ne peut pas dire qu'il y avait sur le bassin stéphanois véritablement une montée, mais il y avait en tout cas une grande fébrilité. Et il y avait des journées d'action, en particulier, on va le voir, dans le monde de la métallurgie.
Qu'on observe aussi bien à la SFAC qu'à la CFL, puisque
tout à fait.
Une légende, enfin, une parole simple nous permet de dire qu'à la CFL, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas une action
une journée de revendication.
Et alors, sur le plan international, le contexte est particulièrement lourd. À tous les azimuts, on a des points chauds.
Bien sûr. Hein, alors le gros point chaud du moment en 68, c'est bien sûr ce pourquoi un certain nombre d'étudiants, voire d'ouvriers sont mobilisés, c'est la guerre du Vietnam. Donc il va y avoir en 68 une intensification de la lutte pour la paix au Vietnam. Il va y avoir des grands mouvements en Europe. Hein. Il y aura en février, en Allemagne, une grande manifestation qui est conduite à la fois par les Allemands, avec Rudi Dutschke, hein, qui sera ensuite un leader qui va être blessé. Hein. Mais il y aura également, déjà, Alain Krivine, la jeunesse communiste révolutionnaire, etc. En France, il y a plusieurs mouvements, hein, qui s'occupent, qui luttent pour la guerre au Vietnam. Il y a les comités Vietnam de base, le comité national du Vietnam. Il y a vraiment un grand mouvement qui s'oppose. Il y a aussi tout ce qui va concerner la lutte des Noirs américains. Et il faut se rappeler qu'en 68, à Mexico, hein, je crois que c'est là, que les athlètes noirs vont lever le poing en manière de victoire pour eux. Voilà.
Alors, c'est l'Amérique, Cuba, c'est l'Europe.
C'est l'Amérique, c'est Cuba. Alors, bien entendu, certains, il y a aussi tout ce qui est de l'Europe de l'Est et des contestations qui existent en Europe de l'Est. Hein, ça va être la Pologne, hein, dont c'est le printemps de Prague. C'est pas simplement quelque chose qui est en France. Il y a tout un contexte international et il y a aussi des gens qui se en Italie, en France, qui vont se tourner du côté de l'Asie avec la Chine et le président Mao.
Oui, basculements assez généralisés. Et avec le sentiment peut-être aussi de ne plus vouloir vivre comme vivaient nos parents.
Pas du tout. Ouais. Hein. Nos parents ont déjà aussi commencé à vivre autrement. Je crois que ce qu'il faut quand même, ce à quoi il faut faire référence, c'est à l'entrée, par exemple, massive des femmes. On a parlé de l'entrée des jeunes dans l'enseignement et dans l'enseignement supérieur, mais il y a l'entrée des femmes sur le monde du travail, dans le marché du travail. Quand moi j'étais petite, ma mère était au foyer et la plupart des femmes de l'HM étaient au foyer. Quand je vais rentrer dans le monde du travail, c'est quand même une grande proportion de femmes qui rentrent sur le monde du travail. Et ça va changer diablement les choses.
Alors ces changements ont été interprétés musicalement.
Premier temps musical. Alors, si je peux permettre, c'est donc Hugo Frey qui interprète une chanson de Bob Dylan. Il l'interprète en 66 et c'est une chanson que l'on a entendue par Hugo Frey, puisque on l'a entendu, je crois, ne pas dire de bêtises, il participait à une fête, c'était la fête du Parti communiste au parc de Solor en 66.
Où que vous soyez, accourez, braves gens. L'eau commence à monter, soyez plus clairvoyants. Admettez que bientôt vous serez submergés. Et que si vous valez la peine d'être sauvés, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde est en change. Et vous, gens de lettres, dont la plume est d'or, ouvrez tout grand vos yeux, car il est temps encore. La roue de la fortune est en train de tourner, et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. Les perdants d'hier ont peut-être gagné, car le monde et les temps changent. Messieurs les députés, écoutez maintenant. N'encombrez plus de rôles, de propos dissonants. Si vous n'avancez pas, vous serez dépassés. Car les fenêtres craquent et les murs vont tomber. C'est la grande bataille qui va se livrer. Car le monde est les temps changent. Et les mères de tous les pays, ne critiquez plus quand vous n'avez pas compris. Vos enfants ne sont plus sous votre autorité. Sur vos routes anciennes, les pavés sont usés. Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés, car le monde et les temps changent. Et le sort et les dés maintenant sont jetés, car le présent bientôt sera déjà passé. Un peu plus chaque jour, l'ordre est bouleversé. Ceux qui attendent encore vont bientôt arriver. Les premiers d'aujourd'hui, demain seront derniers, car le monde et les temps changent.
Magnifique interprétation de Hugo Frey, Les temps changent. Alors, Michel, les temps changent aussi à l'Université de Saint-Étienne. Vous étiez présente et vous apercevez que dans les premiers jours de mai, il y a déjà une petite effervescence.
Oui, alors, en mai 68, je vais très rapidement quitter mon travail. Du Chambon-Faugerolles. Les élèves, je crois que c'est le 6 mai, les élèves sont dans la cour. Ils sont également, sans doute, la région est perturbée. Vous savez que le 3 mai, il y a eu un coup de grisou au Puy-Charles, à Roche-la-Molière, et il y a eu 6 morts. Donc la vallée de l'Ondaine est secouée par cet événement. Et il y a également les événements, bien entendu, qui se passent au niveau national. Les élèves sont donc dans la cour, les profs ne savent plus trop comment les rattraper. Et bon, j'ai à peu près le même âge que ces élèves qui s'en vont et qui disent qu'ils partent en grève. Et je pars avec eux. Je me déclare en grève alors qu'il n'y a pas de mot d'ordre. Je vais rejoindre Saint-Étienne où j'habite et où mon mari est étudiant. Et pendant tous mes 68, je vais donc suivre les événements, disons globalement, avec les étudiants de Saint-Étienne, quand bien même je ne suis pas directement intervenante dans leurs revendications.
Alors, première journée, un peu, qui a une petite ampleur, le 7 mai, où les étudiants se réunissent, salle Sacco Vanzetti.
Voilà, le 7 mai, donc, l'UNEF, qui est une des seules UNEF de France à ne pas appeler. Vous savez qu'il y a eu, il y a eu des barricades à Paris, il y a eu des blessés, des gens qui ont été arrêtés. Et il y a pas mal d'universités qui ont décidé de se mettre en grève. La fac de Saint-Étienne, l'UNEF de Saint-Étienne, est une des seules UNEF à ne pas appeler. Et il y a quand même une assemblée générale en salle Sacco Vanzetti. Et donc, il va y avoir des prises de parole. Et là, l'UNEF est obligée d'appeler à une interruption, une grève d'au moins 2 jours. Et cette grève va, se prolonger bien au-delà.
Alors, sur cette première période, les syndicats ne sont pas très présents, mais on les voit reprendre la main à partir du 13 mai, à l'occasion, après la nuit des barricades, à l'occasion de la grande manifestation.
Tout à fait. Donc on voit bien sûr la CGT qui est largement majoritaire, qui va reprendre les choses en main. On le sait parce que nous sommes étudiants, je suis avec les étudiants et on est un peu bouillants. Et ils n'apprécient pas toujours non plus qu'on soit trop combatif dans les manifestations. Hein. On est dûment encadré. Mais c'est vrai que c'est la CGT qui est majoritaire. Par contre, il y a le 13 mai, la prise de parole est faite par Félix Franc pour la FEN. Et il y a également la CFDT qui est là. La CFDT qui a une dynamique beaucoup plus, on va dire, pro-étudiante que la CGT, mais qui est minoritaire à l'époque.
Alors 20 000 personnes entre la préfecture et la Bourse du Travail.
Oui.
Mais rapidement, l'après-midi, vous apprenez qu'il y a bien plus de monde dans un autre lieu.
Tout à fait. Alors on est très contents parce que il y a mai 68, c'est surtout la dynamique des manifs, où on chante, où on sent un élan, où on a une espérance très vague, hein, mais on a besoin de ces rassemblements. Et le 13 mai, je ne sais pas s'il y a 20 000 personnes, mais bon, puisqu'on le dit, on était très nombreux. Et on chante et tout, et donc on est très enthousiasmés. Et l'après-midi, on vient nous dire, écoutez, ça continue, il y a des gens qui sont rassemblés autour de Château-Creux, c'est noir de monde. Et là, on est prêt à descendre et puis on dit descendre de la Bourse jusqu'à Château-Creux à l'époque. Mais on apprend très très rapidement que c'est nos footballeurs verts qui ramènent la Coupe de France. Et qui, eux, vont être accompagnés par 60 000 Stéphanois. Voilà. Donc, mais bon, c'est un élan populaire autre.
Voilà. Ça, c'est le 13 mai. Et puis, dans les journées qui suivent, très très rapidement, les ouvriers occupent les usines.
Les ouvriers vont occuper les usines. Donc, il y a des manifs, on se tient au courant. Alors, à l'époque, il n'y a pas les téléphones portables. Et puis, il y a une partie de la presse, d'ailleurs, qui est en grève. On se tient au courant. On peut dire que le poste central, c'est à la fois la fac pour les étudiants, mais également la bourse du travail. Donc on navigue entre ces deux lieux pour savoir un peu ce qui se passe. Et on sait qu'il y a des ouvriers en grève. Certains se déplacent et vont voir les ouvriers en grève. Ça n'est pas forcément mon cas. Je ne vais pas sur les lieux de travail pour voir, m'entretenir avec les ouvriers.
Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que ces mouvements ouvriers ne sont pas liés à des mots d'ordre syndicaux, mais que la plupart du temps, ce sont des occupations spontanées.
Tout à fait. Oui, c'est des occupations spontanées et puis qui est faite par des ouvriers relativement jeunes. Il y a par exemple les forges stéphanoises, les forges de Saint-François, où la CFDT est assez majoritaire, un peu ouverte. Et les étudiants vont voir ces ouvriers qui occupent. Moi-même, j'ai ma famille qui est ouvrière d'origine. Mais je ne saurais, parce qu'on n'a pas de téléphone, ils sont arrivés de G, etc. Et je n'aurai de nouvelles que quelques semaines plus tard, où j'apprendrai que effectivement il y a eu des occupations à Rive de G, où mon père et mon frère, au moins, ont occupé.
Alors nous évoquions tout à l'heure la bourse du travail. C'était une véritable cocotte minute, cette bourse du travail.
Tout à fait. Ouais, c'était une cocotte minute. Alors, je crois que, bien sûr, les syndicalistes en parleraient davantage que je ne le peux. Mais c'est vrai qu'on y allait, on était sans arrêt aux nouvelles. On allait voir ce qu'il allait se passer. C'était de là que partaient toutes les manifestations.
Et curieusement, ça n'est pas le préfet qui informait la population stéphanoise, mais c'était les Stéphanois qui se rendaient à la Bourse du Travail pour avoir des informations sur où trouver de l'essence.
Voilà, où trouver de l'essence. Alors nous, on avait eu le... on va dire le malheur, mais bon, de ne pas avoir de voiture. Mais c'est vrai qu'on cherchait de l'essence. C'est vrai qu'il y avait un certain nombre de choses qui... on marchait à pied. Je crois qu'il faut quand même préciser que le phénomène de la voiture individuelle, le phénomène, c'est quelque chose de récent. Donc les gens sont habitués à circuler à pied, il n'y a pas de transport en commun, et bien, ma foi, on reprend les bonnes habitudes, quoi, et on se met à marcher.
Regardons bien aussi les événements à travers le prisme syndical. La CGT craint les débordements. Oui. Les anarchistes sont des gens qui risquent de perturber la vie, l'ordonnancement.
Les anarchistes, on ne s'appelle pas les anarchistes, on va dire les contestataires. On sait qu'il va y avoir des contestations qui vont venir essentiellement par les étudiants, voire d'autres milieux. Mais on ne voit pas apparaître, il n'y a pas les anarchistes, il y en a sûrement, puisqu'il y avait y compris parmi les gens, je pense à un de la CFDT, donc qui était anarchiste. Mais c'est pas... C'est d'une certaine façon, on craint finalement quasiment ce qui vient des jeunes. Donc quand on vient avec des banderoles, quand on est avec des drapeaux, on a des drapeaux rouges, etc., ça remet en cause. Et puis, il faut quand même dire que le mouvement étudiant a été un élément détonateur. Ça a été l'élément détonateur que ça a suivi. Mais que même si il y avait des journées d'action, la CGT en particulier n'en était pas à vouloir. Elle a été un petit peu dépassée par les événements. Alors elle l'a conduit et elle l'a repris en main. C'est Michel Zancherini qui rappelait l'autre jour que c'est essentiellement Georges Séguy qui va négocier à Grenelle. Mais on encadre, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Enfin, la CGT veut s'en tenir à ce qu'elle souhaite, elle.
Quant à la CFDT, elle voit, LPSU,
oui,
il voit dans ces événements-là peut-être le début de ce qu'ils espèrent de tous leurs voeux depuis déjà quelques mois, l'autogestion.
Alors, ils en parlent, mais il faut aussi s'en donner les moyens. Tout le monde a envie que ça change. Alors chacun essaie d'avancer, disons, ses pions, ses solutions ou ce qui semble en être. Mais donc la CFDT se sait minoritaire. Donc il convient à la fois, elle joue sur plusieurs tableaux, il convient à la fois de faire avancer ses thèmes en autogestion et de faire grossir également ses effectifs de façon à pouvoir être, disons, crédible face à la CGT.
Deuxième pause sonore.
La branche a cru denter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, vent et des souffles nouveaux, royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière. Je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo, royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau, royaume de France. Et plus on viole la Sorbonne, plus Truchot ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau, et moins nous courberons le dos au royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades, son chant de folie était beau. Et fou les enfants de Rimbaud, royaume de France. La branche a cru dompter ses feuilles, mais elle emportera le deuil et l'emportera au tombeau. L'automne fera pas de cadeau, royaume de France.
Voilà, le deuxième morceau, c'était une chanson de Jean-Michel Karadec. Donc c'est un chanteur qui a disparu prématurément, qui faisait des albums et qui... je pense que c'est une chanson de circonstance. Il l'a fait sur mai 68, c'est une chanson de circonstance.
Alors je rappelle que nous recevons dans cette émission du Grémos Michel Destour, à la fois actrice et à la fois historienne, capable de prendre de la distance par rapport à ces événements de mai-juin 68. Alors, juin, nous n'en avons pas encore parlé. Est-ce qu'il y a des événements importants qui se déroulent au mois de juin ?
Alors, il y a d'abord, dont il faut parler, c'est quand De Gaulle annonce la dissolution. Hein, il annonce la dissolution et il l'amorce parce qu'il y a d'abord eu Charletti, hein, avec cette énorme manifestation, hein, conduite à la fois par l'UNEF, par la CFDT, par le PSU, etc., et avec la gauche qui suit.
Alors concrètement sur le terrain, on se prépare aux élections.
Donc De Gaulle disparaît, va quelques jours, et puis il revient, il annonce la dissolution et il annonce les élections. Et je crois qu'il faut dire quand même qu'en face de lui, quel que soit le mouvement très important qui s'est mis en route, il n'y a pas d'alternative immédiate. Et il le sent bien. Et quand il annonce la dissolution, je crois que pour un certain nombre d'entre nous, on sait que c'est la fin du mouvement. Parce qu'il ne va pas y avoir... il va y avoir des gens qui vont pouvoir se positionner, mais se positionner pour le futur. Et qu'il n'y a pas... il ne va pas y avoir un débouché immédiat à tout ce qui s'est fait préalablement. Je crois que ça marque quand même... on a l'impression quand même que c'est un grand choc qui marque la fin.
Voilà. Ce que l'on peut dire, c'est que les perspectives ne sont pas que dans la rue, que dans les usines. Les perspectives sont aussi politiques, mais il y a une grande interrogation.
Voilà, il y a une grande interrogation, et la gauche n'est pas prête pour prendre le pouvoir. Donc il va y avoir, bien sûr, les manifestations en faveur du pouvoir, qui vont être massives. Et puis, l'annonce des élections, c'est... Il y a eu, entre-temps, bien sûr, il y a eu des accords... Enfin, c'est pas les accords, je crois que...
Les Grenelles,
mm-hmm. Avec des augmentations de salaire, avec des avancées, on va dire, au moins en termes de discussion, mais au niveau des salaires, des augmentations certaines. Alors, et il va y avoir, là, ça m'a coupé, je ne sais plus où j'en étais.
Il est difficile de dire qui siffle la fin de la partie et pourquoi on la siffle, mais en tout cas, surviennent les vacances.
Alors, qui siffle la fin de la partie ? Si, il y a à la fois Grenelle qui signe un peu la fin de la partie, parce qu'un certain nombre d'ouvriers se disent « on a quand même ça ». De Gaulle signe la fin de la partie lorsqu'il dit « je dissous l'Assemblée nationale et les élections vont avoir lieu ». Et il y a une reprise en main, de tous les appareils. Et le 12 juin, il y aura d'ailleurs une dissolution de tous les groupes d'extrême-gauche qui va intervenir. Alors, il va y avoir toute une phase de élections piège à con, etc. Le fait qu'on ne peut rien faire en termes véritablement de manifestation pendant la période des élections, et puis les élections qui interviennent, et puis bien entendu les vacances. Tout le monde attend les vacances. C'est quand même un mouvement très jeune qui est là. Et ma foi, on remettra ça, mais à la rentrée.
Alors, après 50 ans... Nous avons la capacité d'avoir un jugement plus général sur tout ce qui s'est passé. On peut dire que l'air du temps change et qu'une brèche s'est ouverte qui a transformé en profondeur notre société. La montée en puissance du gauchisme, est-ce que l'on peut dire que... Et il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Est-ce qu'on voit véritablement des axes qui se déterminent ?
Certainement, c'est la période, on va dire... Moi, je situe cette période entre 68 et 73. Quand on discute avec la majorité des gens qui ont participé à des groupes d'extrême-gauche dans les années qui vont suivre... ils donnent à peu près tous ces mêmes bornes. Alors les groupes d'extrême-gauche à Saint-Étienne, en 68, il n'y a pas de groupe d'extrême-gauche véritablement installé. Il y a des gens qui sont sympathisants de groupes gauchistes. Ceux qui vont être, par exemple, les étudiants qui vont les plus contestataires, qui vont intervenir à la fac de lettres, par exemple, c'est des gens sans doute, moi je me rappelle de Paul Castella, des gens qui vont être influencés par les situationnistes, qui est un courant qui est fort à l'époque. Mais là, les gauchistes en tant que tels n'existent pas. Moi, à l'époque, j'étais j'avais pris des contacts avec la jeunesse communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, mais il n'y a pas de groupe constitué. Il y a un petit groupe de lutte ouvrière qui va poursuivre ces distributions de tracts et qui va finalement, c'est pas eux qui vont donner de l'élan au groupe gauchiste. Ce qui va véritablement se constituer, c'est en septembre. On se donne rendez-vous en septembre. D'accord. Il y a rendez-vous en septembre. Donc, pour ma part, je vais rentrer et on va constituer un cercle rouge à Saint-Étienne. Et puis, on en discutait l'autre jour, les maoïstes vont arriver. Je dis arriver parce que ceux de la gauche prolétarienne, on disait ils vont arriver entre les années 69-70. Il y a des militants qui vont venir et qui vont s'installer. Il y a bien sûr des gens qui vont en faire partie et qui sont des Stéphanois. Il y a le Parti communiste, le PCMLF, qui, lui, a tourné ses regards depuis déjà pas mal de temps vers la Chine. Il y a, bien sûr, on parlait tout à l'heure des anarchistes, il y en a un petit groupe. Mais voilà, c'est la concrétisation, c'est après 68.
Et alors avec une SFIO qui est complètement discréditée, c'est le PSU qui apparaît là.
Alors le PSU qui va être, on va dire, je crois qu'il ne serait pas content qu'on dise comme ça, mais on est des compagnons de route, d'une certaine manière. Nous, on va être à la Ligue communiste. Quand il va y avoir des actions d'envergure, c'est, disons, nos partenaires naturels. La CFDT, de temps en temps, on réussit à les convaincre de venir avec nous. Alors, il va y avoir, j'en parle maintenant, il va y avoir en 69, bien sûr, une campagne présidentielle qui va relancer les groupes gauchistes avec, par exemple, nous, on a la candidature d'Alain Krivine. Qui fait campagne et qu'on va apparaître nationalement. Hein, c'est le cas, je crois, aussi de lutte ouvrière. Ça sera après. Hein, le Krivine, c'est la première campagne Krivine, c'est vraiment l'apparition d'un gauchiste. Hein, il est soldat et il se présente aux élections. Et il va y avoir une apparition et il va y avoir des comités de soldats qui vont se mettre en place dans l'armée française et qui vont distribuer des tracts avec une répression qui va être relativement importante contre eux. Et puisqu'on a constitué ces groupes, il va y avoir le 9 mars 1970 à Saint-Étienne un meeting qui va réunir... La grande salle est pleine, donc à peu près 1000 personnes. Et avec Alain Krivine, et avec l'avocat Henri Leclerc, le pasteur Cruz et Félix Franc, qui, lui, représente la FEN. Donc, c'est pour expliquer un petit peu comment les choses démarchent.
Alors, du côté du monde ouvrier, on voit apparaître de nouvelles couches de travailleurs qui n'ont pas de culture syndicale, qui n'ont pas la culture de la grève, mais qui l'ont découverte à l'occasion de mai-juin 68, et qui entrent dans les luttes.
Oui. Il y a des nouvelles formes de lutte, c'est vrai. Il va y avoir, par exemple, des établis. Mais ça, c'est minoritaire. C'est dans le cadre des groupes gauchistes. La gauche prolétarienne décide d'établir un certain nombre de ses militants en entreprise. Et il y a, par exemple, à la CAFL, à Saint-Chamond, des militants maoïstes établis. Et il va y avoir, y compris en octobre 70, une grève. Qui va être, à l'initiative et de ces établis maoïstes. Il va y avoir d'autres grèves également. Il y a des grèves, il y a aux Nouvelles Galeries à Saint-Étienne.
Oui.
Il va y avoir en février, je l'avais marqué là, Les nouvelles galeries, ça alors, doit être en...
On voit aussi que...
70.
D'accord. Hein,
70, il y a les femmes des nouvelles galeries qui vont tenir pendant un mois, je crois, un conflit relativement important.
On voit aussi des néo-ruraux qui sont rentrés dans le monde ouvrier, comme par exemple chez Berlier à Andrézieux-Boutéon,
oui.
Qui découvrent à leur tour que le monde est un monde de lutte.
C'est vrai, hein, c'est vrai. Alors ça, c'est les néo, ce que vous appelez les néo-ruraux, hein, parce qu'il y a toujours eu, de toute façon, dans la vallée de, par exemple, du Gier, dans la vallée de l'Andenne, il y a toujours eu des paysans ouvriers. Mmh. Qui avaient, disons, plus de difficultés à rentrer, d'ailleurs, dans le système des grèves, hein, qui étaient... Ils avaient à la fois la terre et l'usine, ce qui, disons, non pas atténuait, mais diluait un petit peu plus les revendications. C'est vrai qu'on voit arriver des gens qui, eux, viennent de la campagne. Il y a aussi des gens qui sont non qualifiés, qui sont dans des systèmes de travaux qui sont non qualifiés, qui vont effectivement se mettre en grève.
Et ce qui est extraordinaire, c'est les prises de parole que l'on observe à ce moment-là. Comme si la parole avait été libérée et que ce n'est pas forcément les appareils syndicaux à qui est réservée l'expression de revendication. Alors, on parlait tout à l'heure des nouvelles galeries. Ben oui, on a quelques films qui nous sont restés de cette époque où on voit ces femmes qui sont les seules à prendre la parole. On le voit aussi à Manu France en 1969, les femmes disent aux hommes, eh ben, écoutez, laissez-nous tranquilles, c'est nous qui avons la responsabilité de nous défendre.
Oui, alors c'est quelque chose qui va aller relativement vite, la prise de parole, parce qu'elle n'est pas évidente au départ. Quand on est, par exemple, dans les assemblées de mai 68, c'est essentiellement des hommes qui vont avoir la prise de parole politique. La prise de parole, les femmes viendront plus par la prise de parole syndicale. Et on n'a pas de grands leaders qui vont, de grandes oratrices, sinon quand même on a Huguette Bouchardot. Et quand il va y avoir le mouvement, alors à ce moment-là des femmes, c'est elle qui va, bien sûr avec d'autres, mais quand même conduire cette lutte de revendication pour la contraception et l'avortement et la liberté d'avortement.
Donc on est là dans une dynamique très profonde, l'émancipation des femmes, qui va se décliner sur plusieurs plans.
Tout à fait. Hein. Donc il y a dans la jeunesse, même avant 68, un grand mouvement de libération où les femmes apparaissent. Et je disais l'autre jour, y compris dans des gestes du quotidien, il y a une demande des filles d'avoir leur indépendance, etc. Alors ça se traduisait, y compris par des tenues vestimentaires. Moi, je me souviens qu'avant 68... Et même pendant, ça a duré ensuite après, il y avait tout ce qui va concerner au niveau vestimentaire, la mini-jupe. Donc c'était une revendication qui avait une connotation sexuelle d'une certaine façon et une connotation de liberté. Et ça n'était pas accompagné par la contraception, l'avortement, etc. Il y avait une crainte. Les filles étaient dans une crainte perpétuelle d'avoir un enfant, d'être enceinte, etc. Et ça va, mai 68 permet cette prise de parole et cette ouverture là-dessus. Alors, elle le permet. Peut-être que ça va être le support. Ça aurait pu être autrement, mais c'est de là que va partir le travail et le mouvement de libération des femmes.
Donc, un travail rassembleur autour du MLAC, autour du GLAS.
Voilà, tout à fait. Hein, un travail d'abord autour du planning familial. Voilà.
Alors, parallèlement, nous pouvons évoquer les immigrés, parce que si on regarde les choses sur la longue durée, on s'aperçoit que les immigrés ont participé quelque peu aux grèves depuis la Seconde Guerre mondiale, mais en ayant tellement peur d'être envoyés et des conséquences que cela peut avoir, que l'on peut dire que le signal, peut-être, de la prise de conscience des travailleurs immigrés date de 1972, de 1973, avec la grève de la faim des Tunisiens à Saint-Edmond.
Voilà, donc ça c'est en 73, hein, il va y avoir une grève du 10 au 25 mai 73, donc de revendications, c'est pour des cartes de séjour.
Eh oui.
Hein, donc les travailleurs immigrés réclament une carte de séjour et une carte de travail. Ils sont là, ils sont nombreux. Alors il y a toujours eu des immigrés dans la région. Toutes les fois, il a fallu, d'une certaine façon, on le voit, y compris bien avant, on le voit pendant la Première Guerre mondiale, on le voit dans la Deuxième, etc. Il faut toujours qu'il y ait une période d'installation et de reconnaissance pour que les ouvriers rentrent dans des mouvements de revendication. Pour ce qui concerne les Maghrébins, c'est une immigration qui est, on va dire, relativement récente dans la région. Quand on voit il y a toujours eu des Maghrébins qui sont arrivés, mais la majorité va arriver dans les années 50-60. En tout cas, dans la vallée du Gier. Et c'est vrai qu'il va y avoir une difficulté. Ils sont sur des postes non qualifiés. C'est vrai que l'encadrement, les revendications, etc., c'est un problème de culture ouvrière et qu'il va y avoir des grèves qui vont un peu dépasser le fait d'encadrer des immigrés. Mais c'est vrai qu'on les voit plus clairement arriver dans les années 72-73. Il va donc y avoir une grève de la faim qui va être organisée qui va être bien sûr soutenue par les gauchistes et la CFDT, le PSU, etc., et qui va durer.
Un événement social qui a marqué la région, c'est celui de l'affaire Paula en 1972.
Oui.
Alors, dans quelles circonstances?
Alors, l'affaire Paula, Gérald de Paula est prof de maths à Firminy, et d'autre part, il a une activité maoïste. Un matin, il y a des incidents, je crois que c'est à la CAFL à Firminy, et il y a à la fois des heurts sans doute entre la CGT, les maoïstes et la police. Et là-dessus, Paula se met en congé maladie. Il ne revient pas à son travail et il se met en congé maladie. Il a participé à ces incidents à la CAFL. Et il va y avoir, de la part de l'administration, qui va être guidée par la police, hein, qu'il va y avoir des demandes qui vont être faites par la justice, la police, pour essayer d'interroger les militants qui ont participé. Paula est en congé de maladie. On dit qu'il est blessé. Et on souhaite l'interroger de plus près. Et il va y avoir des contre-visites qui vont être demandés, ça va durer plusieurs semaines, où on a du mal, d'une certaine façon, à accuser Paula, mais où il a du mal aussi à se disculper sans doute. Et il va y avoir un comité mis en cause, il va être suspendu de l'éducation nationale, et il va y avoir un comité de soutien qui va se mettre en grève, avec des grèves qui vont être organisées et des professeurs, en particulier ceux du Portail Rouge, hein, je pense à Terrel, je pense à Philippe Perron, qui vont, et puis un Firmini dont le nom m'échappe, qui vont se mettre en grève. Hein, on va les installer, je crois, dans un premier temps à la Bourse du Travail, à la salle Sanco, je me rappelle être allé à la salle Sacco-Vanzetti, hein. Et puis, il va y avoir, ils vont se mettre en grève de la faim pour obtenir, disons, le fait que Paula soit rétablie dans ses droits de professeur. Et puis, l'affaire va traîner, la grève de la faim va devoir s'interrompre, il va y avoir des mouvements, etc. Mais Paula sera définitivement radiée de l'éducation nationale. Mais c'est un contexte dans lequel il y avait d'autres profs, hein, qui vont être suspendus. Il y a l'affaire Sénic, il y a, je ne sais plus, un prof également de Lyon. C'est un contexte de... à la fois, il y a un contexte d'agitation, on va dire, de mouvements gauchistes qui essaient de travailler pour soulever les gens, pour, on rêve de retrouver mai 68 d'une certaine façon. Et puis il y a la répression. Il y avait au niveau du Monde une page qui concernait l'agitation, la répression, etc. Et on disait c'est notre bulletin intérieur. Hein, donc on lisait Le Monde avec cette page où on nous annonçait ce qui s'était passé dans toute la France.
Alors, un monde qui ne vit pas de la même façon qu'il pouvait vivre dans les années de l'après-guerre, et un monde dans lequel on voit se développer les mouvements associatifs, qui prennent des formes nouvelles de solidarité. Alors, ce sont les radios libres dont Lionel pourrait nous parler, mais c'est aussi la mobilisation des LIP.
Oui.
Un événement qui a beaucoup marqué les Français.
Voilà, parce que les LIP vont bien sûr être en grève, et puis ensuite, ça va durer. Pour pouvoir durer, ils vont, vous savez, constituer un trésor, ce qu'ils appellent le trésor de guerre. Il va y avoir une mobilisation nationale.
Ah, ils s'attirent la sympathie de tous
tout
les
à
Français.
Tout à fait. Et hein. Alors, au mois de septembre, on va aller à LIP pour les soutenir. C'est une manifestation immense. Hein, et sous la pluie, on a froid. On n'a pas imaginé qu'à Besançon, il ferait si froid. C'est des gens de la CFDT et oui. On est véritablement dans le cadre de leurs espoirs et de la mise en route de ce qu'ils auraient appelé l'autogestion.
Et puis il y a le Larzac aussi.
Il y a le Larzac. Alors le Larzac, c'est plus tard, c'est un peu plus tard. Encore que, hein, donc le Larzac, c'est des terrains qui sont pris par l'armée. Qui sont pris aux paysans. Et il va y avoir plusieurs manifestations, une à Rodez, ensuite il y a les manifestations qui se font sur le terrain du Larzac, avec aussi des grands rassemblements et des grandes fêtes, hein, parce que ça se passe l'été, donc des grandes fêtes qui se passent sur le plateau.
Et je crois qu'il n'est pas trop aventureux de dire aussi que les multiples initiatives autour des besoin de consommateurs en marge du monde libéral peuvent se réclamer de l'époque de 68. C'est les ZAD, mais peut-être tout le monde n'est pas de ce point de vue. Ce sont ces Nuits debout, c'est les associations demandant la taxation des transactions financières, c'est l'agroécologie, c'est l'économie sociale et solidaire.
C'est l'écologie. Alors, quand même, il y a le passage par l'écologie qui va se faire dans les années 80 et dont, d'une certaine façon, moi en particulier, j'attends beaucoup. Hein, et puis il va y avoir malheureusement au niveau de la structuration du mouvement écologique une rigidification. Oui. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont là, qui s'établissent et qui effectivement sont nourries par le courant de mai 68.
Et je crois que c'est pas banal, Lionel, de se dire que la radio, Radio Dio, a été au cœur de tous ces combats autour de toutes ces ambitions qui a été de changer la vie, de changer la société. En se disant que le profit n'était pas au cœur de notre monde.
Ben oui. Hein? Oui, je crois qu'elle
le dit comme ça.
Elle reste, peut-être fidèle à cette intention, oui.
Voilà, Michel, merci. Nous arrivons au bout de notre émission parce qu'il nous faut réserver quelques minutes encore pour notre agenda, Lionel.
Oui. Oui, petit agenda ou même gros agenda en effet pour boucler ce petit programme. Va faire une petite pause très rapide,
oui.
Petite virgule sonore qui va permettre d'introduire cet agenda.
Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes jeudi 16 mai 1968, il est 20h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de Radio-Télédiffusion du Forêt. La voix de son maître. Le ministère de l'Éducation nationale communique. Les examens sont pour les élèves et les étudiants le seul moyen de recueillir le bénéfice de leur travail durant la présente année scolaire. Une réforme des examens est d'ores et déjà à l'étude depuis le mois de février au sein d'une commission présidée par le recteur Capel.
Des réformes. Voilà, plus petit extrait de ce journal proposé par l'ORTF.
C'est génial, Lionel.
Du Forez. Tu en as parlé en ouverture de ce programme. Oui. C'est en effet une initiative qui est étroitement associée au remue-ménage, le Café Lecture. Et le journal ORTF du Forez, propose quotidiennement ses journaux à 13h et à 20h. Donc là, c'est le journal d'hier soir. Alors, on voit qu'on est en 68, certes, mais on est complètement à 50 ans d'écart, presque en phase avec l'actualité, parce qu'il est question ici de réformes scolaires, universitaires, et on est un petit peu en plein dedans aussi aujourd'hui. On sait que les universités étaient occupées il y a peu, que certaines continuent encore, que la réforme est encore en cours, et il était encore question ce matin même, pour exemple, de problématiques de partiel suite à ces occupations. Bref, c'était pour relayer aussi cette initiative menée du côté donc du remue-ménage. Un site, un blog est en place depuis le 22 mars, date clé bien sûr, sont les 50 ans de mai 68 vue de Saint-Étienne. C'est un blog dont je rappelle l'adresse, c'est 50 en chiffres, 50 ans 68 en chiffres, .wordpress.com. 50 ans 68. .wordpress.com pour retrouver toutes les infos liées à cette initiative, parce qu'il n'y a pas que ces vidéos, d'autres propositions sont faites. Il y a eu, vous l'avez annoncé aussi en ouverture, cette conférence rencontre auprès de Michel Zancarini-Fournel. Une prochaine aura lieu dans ce cadre-là, ce sera le 24 mai prochain, donc semaine prochaine, d'ici quelques jours, une rencontre avec Pierre Héritier, syndicaliste bien connu, reconnu ici à Saint-Étienne, qui proposera une rencontre à partir de 20h, toujours sur ce même remue-ménage. Et puis il y aura d'autres initiatives relayées qui s'inscrivent dans le cadre de ce mai 68 et de cet anniversaire, de ses 50 ans. Il y aura la Vélorution prévue à l'assaut du GIE, une manifestation à vélo entre Saint-Étienne et Lyon ou Grigny. Ce sera le 27 mai prochain. Et puis surtout, de grands rendez-vous encore attendus à la fin de ce mois de mai. Tu vas en parler, Maurice. Ce sont les rendez-vous proposés du côté de la Cinémathèque Médiathèque de Saint-Étienne et de Tarentaise en particulier.
Oui, tout à fait. Donc, à la Médiathèque de Saint-Étienne, mai 68, ce sera le mardi 29 mai avec... Femmes en lutte dans les films du groupe Medvedkin, avec la projection d'un certain nombre de films, très nombreux, à partir de 14h30. Toujours le mardi 29 mai, conférence « Comprendre mai 68 » avec notre ami Jean-Michel Stenner. C'est à 19h, à Tarentaise, à la médiathèque. Et puis le jeudi 31 mai, colloque et projection « Mai 68, la Loire dans le conflit, à l'initiative de la CGT à 18h avec un documentaire de René Vautier. Et le vendredi 1er juin, le cinéma de mai 68, avec une projection de film à la Cinémathèque de Saint-Étienne à 14h30. Alors parallèlement, nous célébrons un certain nombre d'anniversaires, et alors pas seulement l'anniversaire de... Alors si, l'anniversaire de mai 68, avec le colloque organisé par l'IHS 42 Benoît Frachon, en partenariat avec le CEDMO 42 et LSR CGT Loire. Ça se passera le 31 mai à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Là encore, 14h30, entrée libre. Et puis, un certain nombre d'interventions. Intervention de Jackie Henry, intervention d'Alban Graziotin et d'intervention de Luca Wignarski, avec un certain nombre de projections de films. Parallèlement, des célébrations autour de la guerre de 14 et notamment l'année 1918 avec à l'occasion de la nuit des musées à la Maison du patrimoine et de la Masure à la Talaudière une petite exposition 1918 La paix retrouvée et puis pourquoi pas signaler bien entendu la parution du livre du Grémos, du Grémos, qui est un travail collectif, Le monde ouvrier face à la Grande Guerre, le bassin stéphanois de 1910 à 1925. Ce livre, vous ne le trouverez pas dans les librairies actuellement, mais il est en souscription actuellement. On peut l'avoir au prix de 18 euros en s'inscrivant auprès de l'association. Sinon, lorsque le livre sera paru en librairie, il coûtera 24 euros. On peut télécharger le bon de souscription sur le site du Grémos.
Oui, et je reviens à 68, Maurice, juste pour conclure, deux petites informations. Tout d'abord, rappelez que vous avez toutes, justement, ces informations en détail sur le site dédié du Grémos, c'est www.gremos.lautre.net, où vous retrouverez l'ensemble de ces événements et de ces informations citées à l'instant. Et puis, retour sur 68, simplement pour une information complémentaire, tu as évoqué cette rencontre du côté de la Cinémathèque le 29 mai prochain, avec les films du groupe Medvedkin, sur les femmes en lutte. C'est une séance qui est présentée par Michel Hérault en partenariat avec la galerie Noir et Blanc dans le cadre de son exposition qui vient tout juste d'être installée parce que le vernissage a eu lieu ce 16 mai au soir. Impression de mai de Claude Dithivon. Alors c'est un photographe qui en effet bien, a posé sur pellicule des images de cet événement de 68 du côté de Paris essentiellement. C'est quand même un photographe qui en 98 avait exposé l'ensemble de ses photographies de 68 au musée Guggenheim de New York et qui sont visibles là jusqu'au 23 juin prochain à la galerie Noir et Blanc à Saint-Étienne qui ferme ses portes. Ça fait 10 ans que la galerie existe à Saint-Étienne. Elle a proposé 50 expositions. C'est la toute dernière puisqu'elle arrêtera après cette dernière proposition. La galerie Noir et Blanc est située rue Brossard à Saint-Étienne. On le rappelle, c'est au 15 rue Brossard que vous pouvez donc voir jusqu'à juin cette expo actuellement en place. Voilà, ça tombe bien, 50 expos, 50e anniversaire de mai 68 pour la galerie Noir et Blanc. C'était un beau vernissage hier soir en présence de Christiane Auriol qui est venue interpréter précisément aussi des chansons de mai 68 hier, une chanteuse qui sévissait aussi cette époque et qui a enregistré plusieurs albums dans les années 80. Voilà, c'était juste en information complémentaire.
Merci
Lionel. Maurice, merci Michel.
Merci Michel.
Et puis on se retrouve le mois prochain pour la toute dernière de cette saison 2017-2018, émission du Grémos sur Dio. Très belle fin de journée à vous.
J'ai décidé aux étudiants et aux enseignants s'ils acceptaient le report à brève échéance, donc courant juin des examens sous une forme aménagée, ou s'ils boycottaient ceci. Ce qui dit plus aux femmes, les renvoyer en septembre. Ce fut assurément la question la plus controversée. Plusieurs considérations en effet intervenaient. Certains, très nombreux, étaient opposés au renvoi des examens.